D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisqu'on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. Qu'est-ce qu'un milliardaire ? Une personne qui possède des milliards. Ces milliards, elle peut en jouir tristement, c'est-à-dire ne pas en jouir, et cela en fait les personnes les plus mystérieuses du monde. À quoi passe son temps un homme qui ne jouit pas de sa fortune, à tenter de la faire grossir ? À la fin, il implose. Les milliardaires ne durent pas beaucoup plus que les empires, à de très rares exceptions près. La deuxième catégorie est le milliardaire qui jouit de ses milliards. Et il faut faire de grands éloges à ces gens-là, car ils ne jouissent jamais seuls. Nous profitons de leur plaisir. Les Médicis, qui étaient des banquiers arrivés, et très bien arrivés, puisqu'ils ont été les tyrans de la liberté florentine pendant 200 ans, ont aussi bien été ceux qui ont favorisé les arts dans leur ville. On ne dira jamais assez de bien de l'égoïsme des riches quand ils se doublent de la vanité. Elle les force à dépenser pour de belles choses. L'historien d'art Francis Haskell a raconté, dans « De l'art et du goût », l'histoire des rapports entre un certain milliardaire américain et l'art, et comment ces rapports ont influé, tant soit peu, sur le goût du pays. Et ce milliardaire-là n'était pas vaniteux, au contraire. Benjamin Altman, propriétaire de grands magasins, ne voulait pas qu'on parle de lui. Il a constitué une collection de premier ordre qu'il a léguée au Metropolitan Museum de New York et qui reste à ce jour, sauf erreur, le plus important lait que ce musée ait jamais reçu. Altman a tout de même tenu à ce que sa collection soit installée dans des salles à son nom, ce qui était nouveau et assurément pas modeste. Après tout, il s'agissait de Van Dyck, de Rembrandt, de Memling. Son principe d'achat avait été le grand art selon l'idée qu'on en avait à la fin du XIXe siècle. Il l'a conduit à acheter des tableaux de peintres tels que ceux que je viens de mentionner et à refuser un Bronzino, par exemple, que son acheteur en Europe lui avait décrit comme décadent. Voilà le mot important. Non pas décadent, mais acheteur. En 1900, il y avait peu de revues d'art, de catalogues raisonnés, encore moins de moyens de diffusion rapide des images. Altman envoyait des acheteurs en Europe, munis d'instructions certes, mais qui achetaient souvent sans qu'il ait vu. De nos jours, des milliardaires continuent à acheter, à léguer, à créer des fondations, comme depuis longtemps. Ce qui est peut-être nouveau, c'est qu'ils créent eux-mêmes des musées où ils montrent de l'art vivant. François Pinault a à Venise le Palais Grassi et la Punta della Dogana, Bernard Arnault a créé à Paris la Fondation Vuitton dans un bâtiment dessiné par Franck Guéry. Quel est le goût des milliardaires actuels et leur influence sur le goût public ? Je reçois pour en parler Adrien Goetz, historien d'art et directeur de la revue Grande Galerie, le magazine du Louvre. Adrien Goetz, les milliardaires collectionnent de l'art depuis longtemps, sans remonter jusqu'à Sénèque, le philosophe qui était très riche et avait une grande collection, ni mécène, l'ami de l'empereur Auguste. Je voudrais que vous me disiez un mot des Médicis que j'ai évoqué dans mon introduction.
Oui, tout ça, vous l'avez très bien dit, Charles Danzig, ce sont des images mythiques et c'est peut-être le moyen de durer plus que les empires, comme vous l'expliquiez à l'instant. Les Médicis sont des collectionneurs d'art de leur temps, bien sûr, mais ils accumulent aussi des collections d'antiques, parce qu'à cette époque, il faut rivaliser de collections d'antiques, et ça dure jusqu'à l'acquisition des antiques borghèses par Bonaparte, qui les achète à son beau-frère, le prince Camille Borghese. Il y a d'un côté les collections d'antiques des papes, et puis à Florence, donc on le voit encore aujourd'hui au musée des Offices, il y a la Tribuna, où il y a les œuvres les plus belles, et au centre, la Vénus Médicis, qui est une pièce antique. Ils le font pour eux, mais ils le font aussi pour la gloire de Florence. Et ça, c'est un point très important. Et Altman, que vous avez cité dans cet article de Haskell, est quelqu'un qui collectionne pour New York, qui a aussi l'idée que son nom va survivre parce qu'il va léguer au musée de sa ville. Il y a cette dimension des vergétismes, de générosité qui distingue les milliardaires et qui fonctionne comme un mythe sans doute jusqu'à aujourd'hui.
Mais les Médicis passaient aussi des commandes à des artistes contemporains, positivement des commandes, non ?
Bien sûr, des commandes de portraits, des peintures de bataille, des choses qui sont pour leur gloire et pour la gloire de Florence. Et c'est ce que raconte Vasari dans ses vies des plus illustres peintres, sculpteurs et architectes en 1550, puis 1568, où il explique tout cela en construisant une cité idéale qui s'appelle Florence et qui est due au rayonnement de ces richissimes qui ont aidé et soutenu les artistes.
Eux-mêmes avaient créé un musée ou ça n'existait pas ? Les Médicis, je veux dire.
C'est-à-dire que les bureaux, les offices, le corridor, ce qu'on appelle le corridor de Vasari, qui relie aujourd'hui les offices au Palais Pitti, servent à accrocher tout naturellement des œuvres. Et ça, c'est une question qui peut se poser jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on passe de des œuvres qu'on a chez soi pour sa délectation personnelle au musée qu'on va montrer, dont on va être fier et qu'on va ouvrir au public. Altman avait créé des galeries de musée dans sa maison sur la 5e avenue. À la fin de sa vie, il voulait que sa collection privée soit montrée déjà comme l'embryon d'un musée.
Sauf que c'était à son usage personnel chez lui.
C'est ça, voilà, personne n'y allait, c'était très secret.
Est-ce que du temps des Médicis, les collections étaient ouvertes ?
Oui, elles sont ouvertes à des grands amateurs, à des voyageurs. C'est aussi une politesse qu'on fait dans des visites princières, on fait visiter la collection. Et ça dure jusqu'au 18e et même au 19e siècle.
Et c'est une nouveauté de la Renaissance, l'ouverture des collections privées au public ?
Est-ce qu'on sait si ça ? Ce rêve, comme les successeurs de Mécène, ils ont tous lu les discours de Cicéron contre Verrès, enfin cette idée qu'on va renouveler un geste qui remonte à l'Antiquité, qu'on se place au même rang que ces grands personnages antiques. C'est ce qui se passe encore au XXe siècle avec Getty. Paul Getty collectionne et se rêve une sorte de pison réincarné qui fait construire la Villa des Papyrus en Californie et qui installe ses collections parce que il est l'héritier de l'Empire romain.
Vous avez mentionné tout à l'heure Napoléon. Napoléon a eu ceci de très particulier, c'est que lui aussi, je crois, tenait beaucoup au prestige. Je dis je crois avec une modestie exagérée. Et je crois qu'il a imposé à ses maréchaux, qui étaient pour la plupart des fils de rien, de créer des collections, non ?
Certains avaient du goût, malgré tout. On a peint Murat comme un soudard. Murat s'intéresse à la peinture. Quand il s'installe avec Caroline Bonaparte à Capodimonte, il y a les collections de vases que Ingres va voir et dont ils sont très fiers. Il commande à Ingres des portraits et tableaux. Il y a un intérêt artistique réel parce que c'est aussi une manière d'afficher un statut social, un rang qu'il faut tenir. Et certains ont un goût spécifique. Le maréchal Soult achète des œuvres espagnoles. Il veut avoir Murillo à une époque où on regarde assez peu tout cela. Et il ouvre toute une page de l'histoire du goût du 19e siècle. Quelques années plus tard, le baron Taylor parcourt l'Espagne pour le compte du duc d'Orléans qui devient Louis-Philippe pour constituer cette magnifique collection espagnole du Palais Royal que Manet a vue et qui est très marquante et très originale à son époque.
Elle est devenue quoi cette collection ?
Elle a été vendue. Vous souvenez que la République a été trop honnête et la Deuxième République a rendu à Louis-Philippe des collections dont on estimait qu'elles avaient été acquises sur la cassette personnelle du roi. Et donc elles ont été dispersées en vente au 19e siècle. Et le Louvre aujourd'hui regrette encore, évidemment, les chefs-d'œuvre espagnols de la collection de Louis-Philippe qu'on aurait pu nationaliser.
Le département espagnol du Louvre est un peu pauvre.
Et intéressant et beau, mais il aimerait avoir un Velázquez.
Alors, ce qui est assez nouveau dans les temps contemporains, Adrien Goetz, à moins que vous me démentiez et que vous me montriez qu'il y a eu énormément de milliardaires anglais et français au cours du 19e siècle qui ont constitué des collections, à part la famille d'Orléans dont vous parlez, je crois que c'est une chose, en tout cas à la fin du 19e siècle, très américaine tout d'un coup. C'est ces gens très très riches et d'une certaine façon nouveaux riches qui se créent des collections d'ancien art.
Oui, c'est le cas par exemple à Boston d'Isabella Stewart Gardner. On visite encore aujourd'hui son musée, qui est une sorte de fossile muséographique merveilleux, puisqu'il est dans l'état qui était le sien au temps de Madame Gardner.
Qui était cette Madame Gardner ?
Alors, elle est très riche parce qu'elle est la fille du président de la Stewart Iron Company. Elle naît, elle, en 1840, donc elle est encore une femme du 19e siècle. Et cette maison de Boston, qu'elle a conçue comme un palais vénitien, il est achevé en 1903 et elle y vit. C'est-à-dire qu'il y a des visiteurs, mais il faut l'imaginer comme une sorte de Madame Verdurin bostonienne qui se prendrait un peu pour le duc d'Aumale à Chantilly, qui voudrait avoir ses chefs-d'œuvre et qui veut aussi que son nom perdure après elle parce que elle organise des concerts, et des concerts, il y en a toujours aujourd'hui dans ce musée bostonien. Et l'accrochage est le sien. C'est-à-dire que quand vous entrez dans le salon principal, qui est une salle de musée du musée Gardner de Boston, vous allez d'instinct vers le grand portrait de Madame Gardner par Sargent. C'est la maîtresse de maison. Et autour, il y a Van Dyck, les portraits
de la
Renaissance.
Très beau portrait d'ailleurs, le portrait de Sargent.
Magnifique. Mais elle est restée au cœur de cette collection qui est une œuvre d'art à sa manière.
En même temps, pardon Adrien Goetz, oui, mais je crois que sa collection a été en grande partie constituée par un historien d'art important.
Oui, exactement. Elle est conseillée par le grand Bernard Berenson, qui a l'œil absolu, qui parfois se trompe. Il y a des erreurs de Berenson qui sont restées en place. Il y a un tondo, par exemple, un tondo de marbre qui était un des grands chefs-d'œuvre de la Renaissance de la collection Gardner et qui aujourd'hui est un cartel qui dit travail italien début 20e siècle, fin 19e, point d'interrogation. Mais on n'a pas le droit d'y toucher parce que le testament d'Isabella Stewart Gardner veut que ça reste comme cela. Et on a découvert ensuite que Berenson travaillait secrètement avec Joseph Devine, hein, le grand marchand, qui appartenait à cette famille Devine, de grands négociants d'art. Hein, il y avait les deux frères, et puis ensuite le neveu Joseph, qui déjà avait fait la collection Altman, dont vous parliez à l'instant. Donc il y a toujours ce rôle du conseiller.
Est-ce que vous sous-entendez que ces milliardaires sont, je vais exagérer mon propos intentionnellement, sont des incultes qui se font avoir par des acheteurs, lesquels sont entre les mains de marchands qui leur fourguent pour des intérêts plus ou moins discibles des œuvres?
Pas forcément, mais certains veulent en effet se faire une culture. Et la collection souvent intervient tardivement dans leur vie. On a le cas de Samuel Cress. Alors il est un peu plus jeune qu'Isabella Stewart Gardner. Il est né dans les années 1860. Et lui, c'est l'empereur de la chaîne de magasins à 5 ou 10 cents. Donc il vient d'un trou perdu de Pennsylvanie qui s'appelle Cherryville, ça ne s'invente pas, et qui veut créer une collection, achète beaucoup toujours par l'intermédiaire de Devine, et qui contribue lui à créer la National Gallery de Washington avec Andrew Mellon. Hein, par son testament, Andrew Mellon, qui lui est un banquier, fils de banquier, petit-fils de banquier, fonde une collection qui devient la collection du peuple américain. Et ça, c'est très touchant aussi. C'est l'idée que cette culture qui a été la leur, ils la transmettent et ils veulent que des petits écoliers venus du fin fond de l'Amérique puissent y entrer gratuitement et apprendre l'art.
Nous avons parlé beaucoup de milliardaires et d'une seule femme, Adrian Goetz, que vous nous avez expliqué qu'elle était, Isabella Stewart Gardner. Et ça a l'air effectivement, ces collections, d'être une chose presque de testostérone, de muscle et de virilité pour prouver qu'on
est... Non, pas forcément. Je suis pas de votre avis.
Non, c'est juste la question que je vous pose.
Reprenons l'exemple de Dominique de Ménil, par exemple, qui a fait la collection Ménil de Houston. Elle est la fille de Conrad Schlumberger, ou Schlumberger, Schlumberger, si vous voulez l'appeler comme on le faisait au temps d'André Gide, qui avait deux filles, hein, Conrad Schlumberger, Anne Gruner, qui a fait cette utopie rurale qui est la Fondation des Treilles dans le Var, où il y a toujours des colloques passionnants. Et puis Dominique de Ménil, sa sœur, qui, elle, a créé à Houston cet endroit absolument extraordinaire, connu essentiellement pour la chapelle de Mark Roscoe, mais qui est un mélange, qui est un vrai goût, qui est une collection. Il y a à la fois, elle a commencé avec Cézanne, Max Ernst et Magritte, mais il y a à la fois Pollock, Cy Twombly, Barnett Newman, et puis des objets médiévaux, de l'art africain. Là, on peut dire que c'est un goût qui est issu, c'est très paradoxal, d'une fortune qui est une fortune du pétrole, et qui se veut planétaire avec une dimension presque philosophique. Vous disiez, Altman cherche des œuvres qui vont élever l'âme, qui sont des grands chefs-d'œuvre, qui poussent à regarder vers le haut. Eh bien, chez Dominique de Ménil à Houston, il y a aussi cette dimension, hein, qu'on va accéder à une vérité plus haute et inconnue à laquelle les artistes, ces grands chamans, peuvent peut-être nous permettre de participer. Hein. Et c'est ce qu'on ressent quand on est dans la chapelle Roscoe, dédiée à toutes les puissances d'en haut, à Houston.
L'âme passe parfois entre les draps, Adrian Goetz, parce que nous allons entendre...
Dire, Charles Dancy.
Je veux dire que nous allons entendre à l'instant Peggy Guggenheim, et Peggy Guggenheim a constitué une très brillante collection comme nous savons, mais je crois qu'elle a été un peu la maîtresse de Max Ernst, et elle nous parle dans ce son d'archives de sa collection, de pourquoi elle a choisi Venise pour la montrer, et c'est une interview de Pierre Delagarde pour France Inter le 7 décembre 1969.
Madame, quelle extraordinaire collection vous avez ici, j'ai vu tous les grands noms de la peinture représentés, que ce soit Picasso, Chagall, Braque, Léger, un Brancusi, trois ou quatre Mondrian, je crois.
Il y a deux Brancusi.
Deux Brancusi.
Trois Mondrian.
Et puis, on est reçu par la célèbre statue de Marino Marini, le cavalier.
Ah, oui.
Quelque chose d'extraordinaire. Ici, nous sommes dans la galerie des surréalistes, bien sûr, il y a Dali. Et il y a... C'est de qui, ça?
Max Ernst.
Ah, Max Ernst. C'est une œuvre très extraordinaire parce qu'elle est à la fois surréaliste, mais un petit peu fin de siècle. On dirait qu'elle est inspirée par Gustave Moreau.
Oui, on dirait un peu, oui.
Un peu. Dites-moi, madame, vous faites cette collection depuis combien de temps?
Depuis au commencement de la guerre, la dernière guerre.
Et vous l'enrichissez chaque année?
Un petit peu, mais moins maintenant qu'avant.
Oui. Vous faites partie, évidemment, d'une famille d'artistes, je dirais même de mécènes. Votre oncle, c'est votre oncle qui était le grand Guggenheim qui a fondé le musée d'art moderne.
Oui, à New York.
À New York.
Le musée Guggenheim, à New York, oui.
Et votre fille est artiste.
Oui, ma fille était artiste.
Mais elle est morte, malheureusement. Mais c'était une artiste confirmée. J'ai vu des œuvres, de ses œuvres, dans des expositions internationales.
Oui, c'est possible, oui.
Oui. Dites-moi, madame, je voudrais vous poser une question. Vous êtes une Américaine, et une Américaine pragmatique. Et en plein dans ce monde, puisque vous faites une collection d'art moderne. Alors pourquoi êtes-vous venue à Venise ?
Moi, je suis venue à Venise parce que j'adore Venise.
Oui, mais Venise, c'est la ville du passé, la ville de la mort, de la décadence. Depuis Guardi, il n'y a pas un grand peintre à Venise.
Mais il faut quand même l'art moderne à Venise pour que ça vive encore. J'espère enrichir la ville en amenant la collection ici.
Alors, Adrien Goetz, je voudrais que nous passions maintenant au XXe et au XXIe siècle, c'est-à-dire au temps contemporain et à la façon dont les choses changent ou ne changent pas. Vous allez nous le dire dans la façon qu'ont les milliardaires de former leur collection. Est-ce que ça change ou pas dans le goût contemporain ? D'abord, il y a une chose qui est ou pas nouvelle, et vous allez me le dire, c'est l'inflation considérable des prix qui fait que les œuvres d'art sont beaucoup plus éloignées qu'elles ne l'étaient il y a 100 ans et peut-être moins, encore 50 ans, du goût des gens normaux qui gagnent un peu leur vie. C'est-à-dire qu'un bourgeois français ou anglais ou italien des années 1950 pouvait acheter un tableau dans une galerie, un très bon tableau, sans se ruiner. Maintenant, les œuvres d'art contemporaines sont devenues excessivement chères et on dirait qu'elles ne sont accessibles qu'aux milliardaires.
Oui, on cite de grands exemples, un Jeff Koons acquis par François Pinault de 2,5 millions d'euros en 1996 et qui vaut 20 fois plus aujourd'hui. En réalité, est-ce que c'est pas parce qu'il y a ces milliardaires qui soutiennent ces artistes que les œuvres flambent et valent aussi cher ? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser, parce qu'en réalité, il faut comprendre que c'est aussi pour eux une partie de leur budget de communication, une partie du budget de la construction d'une image, que toutes ces choses-là aujourd'hui c'est peut-être le vrai pétrole et ce qui coûte le plus cher, et qu'en réalité ces chiffres n'ont pas beaucoup d'intérêt. On les voit répétés à l'envi dans tous les magazines de finance où on nous met en scène le match Pinault-Arnault, hein, qui a le plus investi, 29 millions d'euros pour le Palazzo Grassi, pour Pinault, 300 millions d'euros pour faire construire cette magnifique fondation Louis Vuitton par Franck Gehry grâce à Bernard Arnault. Bon, tout ça, est-ce que ça a un sens vraiment ? Est-ce qu'il s'agit encore du prix des œuvres d'art ou est-ce que c'est pas des budgets de stratèges ?
Alors, j'ai une question justement à ce propos, Adrien Goetz, c'est que vous venez de citer les deux exemples majeurs des temps contemporains.
C'est le conte aux ânes des...
Non, mais vous avez raison, mais la différence, c'est que Pinault rachète le Palais Grassi qui s'appelle Palais Grassi et que la Pointe de la Douane s'appelle Pointe de la Douane. Arnault crée un musée que je trouve pour ma part un peu vide et qui n'est pas la collection fracassante qu'on nous avait annoncée, mais bon, dans une chose qui s'appelle Fondation Vuitton. C'est-à-dire que là, l'idée de promotion de la marque est beaucoup plus marquée.
Peut-être, mais il y a sans doute aussi un goût Arnault comme il y a un goût Pinault. C'est ça le vrai enjeu, par ailleurs, c'est ce que je voulais dire en second lieu, c'est que il est facile, quand vous avez beaucoup d'argent, les plus grands moyens du monde, d'avoir du goût. Il suffit d'aller acheter chez des grands marchands, d'aller chez Gagosian, prendre les choses les plus intéressantes et d'acheter des noms d'artistes comme on achète des marques. Avoir du goût, ça n'est pas avoir un goût. Et avoir un goût, c'est finalement le véritable enjeu, parce que c'est ça qui permet de passer à la postérité. On parle d'un goût Goncourt, d'un goût Noailles, d'un goût Rothschild. Il y a des noms qui sont restés dans l'histoire du goût et qui sont encore aujourd'hui des références. Et c'est ça, en réalité, le véritable but de cette compétition, c'est savoir qui aura un goût.
Donnez-moi votre avis, Adrien Goetz. Moi, je peux donner le mien, mais enfin, je trouve que ce qu'on montre depuis plusieurs années chez Pinault, que ce soit à la douane de Venise ou au Palais Grassi, on voit des choses qui montrent un goût fortement marqué dans un certain type d'art. Oui. Très contemporain, parfois très audacieux, parfois même un peu morbide, disent certains, alors que ce qu'on voit pour l'instant à la Fondation Vuitton est une chose qui a l'air un peu d'un démarquage du Centre Pompidou des années 90, qui est peut-être très bien, mais qui ne manifeste pas une personnalité aussi marquée que chez...
Alors c'est une analyse qu'on peut faire, en effet, d'insister sur un goût de François Pinault qui serait parfois marqué par le thème de la vanité. Hein. Ça avait été la première exposition, il avait commencé par montrer des choses d'une collection qui très longtemps était secrète. comme si la collection c'était, vous savez, le conseiller qui, sur le char du triomphateur antique, lui murmure à l'oreille, souviens-toi que tu es mortel, hein, et ça c'est peut-être le rôle du conseiller du collectionneur. On pourrait trouver des contre-exemples. Hein. Il y a aussi des choses assez ludiques qu'on a vues au Palais Grassi et qui sont dans le goût Pinault. Vous vous souvenez peut-être de cette artiste qui s'appelle Zoé Léonard, un nom qu'on peut pas oublier, qui s'était contenté de faire un rond dans un des volets du Palazzo Grassi et qui projetait une vue de Venise comme dans une caméra obscura. Et c'était une œuvre qui avait été faite pour le lieu et qui avait une forme de légèreté et qui n'était en rien morbide ou inspiré par les vanités. De l'autre côté, quand on regarde ce qui a été montré à la Fondation Louis Vuitton, on peut peut-être dire qu'il y a un goût Arnaud aussi, c'est-à-dire qu'il est peut-être plus musical. Hein. C'est peut-être de ce côté-là qu'il faut aller chercher les clés de cette passion, hein, des œuvres qu'on peut regarder dans une forme... dans une forme d'harmonie, hein. C'est quelqu'un qui aime d'abord la musique, mais quand vous êtes devant cette cascade, vous savez, à l'extrémité du bâtiment, que vous regardez l'installation de la Four Eliasson qui a été montrée l'an dernier, il s'en dégage une forme d'harmonie classique. Alors c'est peut-être dû, vous citiez l'exemple du Centre Pompidou des grandes années, c'est peut-être dû aussi à ses conseillers, parce qu'il y a toujours des conseillers, hein, pour Pinault, et à côté de lui évidemment Jean-Jacques Ayagon, il y a Martin Bettenau, le directeur de Pinault à Venise, et du côté d'Arnaud, ben il y a Suzanne Paget, l'ancienne directrice du Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, il y a Olivier Michelon qui vient de la rejoindre et qui est le directeur des abattoirs, qui était jusqu'à il y a quelque temps le directeur des abattoirs de Toulouse et qui est un conservateur extrêmement doué. Donc il y a peut-être aussi cette influence. Est-ce que tout ça crée une originalité ? C'est la vraie question.
Justement, vous disiez une chose intéressante, c'est que dans tout ça, il y a les acheteurs que vous avez nommés. Et est-ce que ces acheteurs, qui viennent d'ailleurs très souvent d'institutions publiques, ne sont pas comme les gouvernements vis-à-vis des milliardaires, comme les chefs de cabinet vis-à-vis des gouvernements de la Troisième République qui chutaient les uns après les autres et qui maintenaient une politique alors même que les ministres sautaient. Est-ce qu'au fond, dans tout ça, il n'y a pas une espèce de perpétuation de goût plus ou moins académique fait par des gens qui viennent de l'institution, embauchés par du privé, mais qui continuent, pour ces gens du privé, à promouvoir un certain type de goût?
Il y a certainement ce phénomène. Il y a aussi une volonté de mettre en avant des records de prix. C'est d'abord l'image du collectionneur qui est...
Pinault ne se montre pas tellement à Arnaud non plus. D'ailleurs, en tant que personne, on voit pas leurs portraits. Ils vont pas dans les émissions de télévision. Ils font pas faire des portraits d'eux-mêmes dans les journaux.
Ah, je suis pas sûr de ça. J'ai l'impression qu'au contraire, au moment où la fondation Vuitton s'est ouverte, on a beaucoup vu Arnaud et que François Pinault incarne aujourd'hui une espèce de légende vivante du collectionneur.
Alors, pour poursuivre Adrien Goethe, je voudrais qu'on aille sur l'influence de ces gens-là sur le goût contemporain. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, ces milliardaires, ceux que nous citons depuis la deuxième partie de l'émission, ou d'autres, suivent un goût déjà établi et au fond n'ont jamais fait que monter dans le train de Jeff Koons ou de Damien Hirst, ou bien ils ont accentué l'influence de ces artistes-là, et oui ou non, pensez-vous que les achats et le fait que leur musée les montre orientent le goût contemporain d'une certaine façon ?
Il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des artistes qui sont indispensables. Vous trouverez Richard Serra chez les deux, par exemple, et en grand nombre. Il y a une volonté aussi d'affirmer une originalité qui n'en est plus une. Bernard Arnault se passionnant pour Basquiat. Bon, là, voilà, c'est quelque chose qui est déjà parfaitement encensé, répertorié et au sommet du marché. Mais vous avez aussi des artistes qui sont peut-être pas découverts, mais en tout cas... mis au pinacle et soutenu, on pourrait citer Adèle Abdessemed par exemple, soutenu par François Pinault, ou bien Danvaux qu'on a découvert au Palazzo Grassi, qui est un formidable à la fois artiste et commissaire d'exposition et curateur. Donc ça, c'est un artiste dont on a entendu parler de manière planétaire parce qu'il y a Venise et parce qu'il y a François Pinault. Donc faut nuancer tout ça.
Mais d'ailleurs, pour sortir de ces deux milliardaires qui ne sont pas les seuls au monde, il y en a de bien plus riches et de bien plus importants en ce moment qui collectionnent beaucoup et dont on ne sait pas très bien ce qu'ils font de leurs tableaux, que sont ces milliardaires d'Oubayot ou de Sharjah? Que sont ces milliardaires chinois qui achètent on ne sait quoi, on ne sait où? Et est-ce que eux, est-ce que vous ne pensez pas que, et je pense particulièrement aux milliardaires chinois et à la façon dont un nouvel art chinois a été promu et se crée depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, que là, pour le coup, un nouvel académisme néo-réaliste se crée à cause de ces gens-là, qu'il y a eu des espèces de nouveaux riches chinois qui veulent absolument des portraits, des choses à l'ancienne?
Peut-être, et ça, est-ce que ça serait une mauvaise chose? Pas forcément. Ça peut être, au contraire, une des sources du renouveau.
Mais est-ce que vous pensez que c'est vrai?
J'aime bien m'intéresser, parmi ces gens très fortunés d'aujourd'hui, à ceux qui ont un vrai goût qui leur correspond et qu'ils poursuivent depuis souvent l'adolescence. Je sais pas, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est quelqu'un qui parle assez peu de sa collection, mais tout le monde connaît ses passions, c'est Michel-Édouard Leclerc, qui lui achète de la bande dessinée. Il achète des planches originales, il a été le premier à acheter des planches de Bilal, il a aujourd'hui sans doute une des plus belles collections de planches originales de bande dessinée, un domaine auquel les musées se sont très peu intéressés. Il y a eu une exposition Hergé au Centre Pompidou, mais c'est un domaine qui dans les collections publiques est encore aujourd'hui absent. Et il y a beaucoup de grands maîtres qui aujourd'hui poursuivent une tradition d'une forme de dessin et d'expression qui est vraiment l'expression d'une génération et d'une époque. Et là, on a un exemple d'un collectionneur qui, depuis toujours, avec des moyens qui sont allés croissants, a acheté très intelligemment à des dessinateurs qu'il connaît, qu'il fréquente, qu'il va voir. Et ça, c'est aussi un point auquel on doit être très attentif. Il y a un vrai goût derrière ça.
Oui, mais ça, c'est un art mineur qui...
Pas forcément. Là, peut-être, c'est vous qui allez trop vite. Je pense que la bande dessinée est aujourd'hui un des arts majeurs de la dernière partie du XXe siècle et du XXIe. Le jeu vidéo, ça, c'est quelque chose qui pourrait intéresser aujourd'hui des collectionneurs. Et il y a des étudiants des Beaux-Arts qui se forment aux jeux
vidéo.
Vous
faites un peu de démagogie, là, Adrien Goetz, pour me faire dire tout le monde est artiste parce qu'on aime les jeux vidéo, alors que vous ne le pensez pas.
Je cherche ce qui serait aujourd'hui un goût de collectionneur répondant à notre époque et à une passion personnelle authentique.
Oui, mais à ce moment-là, si c'était, je ne nie pas que ce soit des passions authentiques, mais à ce moment-là, je ne sais pas quoi, en 1830, on aurait pu faire des collections de gravures de chevaux parce que les courses de chevaux étaient à la mode.
Oui,
c'est
mais
pas parce que c'est pas parce que ça plaît.
En 1830, quelques collectionneurs très inspirés collectionnaient déjà la gravure populaire, la caricature, des formes qu'on jugeait mineures et qui aujourd'hui sont par excellence les grandes formes artistiques du 19e siècle.
Eh bien, justement, ma dernière question, Adrien Goetz, sera à ce sujet. Est-ce que le travail d'un milliardaire, outre d'avoir son goût de faire les achats qui le regardent et qui le concernent et qui lui plaisent, n'est pas d'une certaine façon, et est-ce que c'est les vrais gens de goût et les vrais milliardaires de goût ne cherchent-ils pas ça, à orienter d'une certaine façon le goût du public au lieu de le suivre? Et ce qu'on reproche souvent aux milliardaires dont on parle depuis une demi-heure, vous et moi, c'est que justement, ils imposent un goût et ça déplaît toujours.
Oui, mais il peut arriver à revenir à l'institution. C'est-à-dire, faut savoir si, à la fin de tout cela, il y a la création d'une institution publique ouverte aux visiteurs et au commun des mortels, ou s'il y a des dons faits à des musées. Ça fait aussi partie de la collection du grand mécénat des richissimes de devenir le goût commun par l'intermédiaire d'institutions qui sont des musées ou des fondations et qui perpétuent leur mémoire et perpétuent aussi un moment de l'histoire du goût.
Donc, est-ce que vous faites plus confiance pour la perpétuation du goût ou le renouvellement du goût aux institutions publiques ou aux institutions privées?
J'aimerais aujourd'hui faire confiance à des docteurs gâchés, qui avec peu de moyens achètent avec intelligence ce qu'ils aiment sans se soucier des prix.
Vous collectionnez, Adrien Goetz?
Je n'ai pas du tout les moyens, mais j'invente dans mes romans des personnages de collectionneurs.
C'était Secret professionnel, le 202e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel du cimetière du crépuscule. Réalisation Clotilde Pivin, attachée de mission Daphné Abgral, prise de son Valérie Lavalard, recherche INA Simone Afik. Dans un instant, Joël Gaillot, une saison au théâtre.